France Inter.
Aujourd'hui, la folle histoire de notre système solaire, racontée par...
Alessandro Morbidelli, professeur au Collège de France sur la chaire formation planétaire et aussi chercheur au laboratoire Lagrange, à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Il y a des milliards d'années, la Terre n'était pas seule à errer dans l'immensité du cosmos. Une protoplanète géante flottait également dans les profondeurs du système solaire, tout près de la Terre. Mais tout a basculé lors d'un impact cataclysmique entre ces deux corps célestes qui ont projeté une énorme quantité de débris dans l'espace. Ces fragments ont commencé à s'assembler, formant peu à peu un disque autour de la Terre qui allait donner naissance à un nouvel objet, la Lune. Ce processus a été extrêmement rapide à l'échelle des temps cosmiques puisque les débris ont façonné notre satellite naturel en quelques millénaires seulement. Pendant longtemps, les scientifiques ont estimé que la Lune était née autour de 4,3 milliards d'années en se basant sur la cristallisation des roches lunaires. Mais il y avait un problème, les zircons, des minéraux incroyablement résistants provenant de notre satellite, ont été datés, eux, à plus de 4,5 milliards d'années bien avant cette solidification supposée. Cette découverte a donc fait naître un doute. Pourquoi des cristaux aussi anciens étaient-ils présents dans des roches qui semblaient plus récentes? C'est là qu'intervient l'hypothèse d'une refonte partielle de la Lune. Les chercheurs suggèrent qu'après sa formation initiale, l'orbite de notre satellite a évolué au fil du temps. En s'éloignant progressivement de la Terre, la Lune a traversé une phase qui a provoqué des forces de marée gigantesques, générant une chaleur intense, entraînant la fonte partielle du manteau lunaire tout en modifiant sa croûte. Et c'est ce processus qui a rebattu les cartes de la création de la Lune en lui donnant au passage un petit coup de vieux avec ses 4,5 milliards d'années. La formation de notre satellite représente le dernier acte de la naissance mouvementée de notre système solaire et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Alessandro Morbidelli.
Bonjour.
La naissance de la Lune, c'est vraiment le dernier acte de l'histoire chaotique de la formation du système solaire ?
Oui, au moins c'est le dernier acte de la formation de la Terre, parce qu'on sait qu'après la formation de la Lune, la Terre a créé encore un tout petit peu de masse, mais très peu, même pas 1% de sa masse totale.
C'est vous qui allez donner un petit coup de vieux quand même à la Lune avec vos collègues. Hein. C'est issu d'une publication qui était sortie en décembre dernier dans Nature, pour réévaluer l'âge de la Lune alors. Hein.
Oui, tout à fait. C'est une histoire qui remonte en fait à septembre 2023, quand on avait organisé une réunion de travail avec ses collègues à Nice. Et là, on s'est penché vraiment sur ces paradoxes de pourquoi certaines mesures semblaient indiquer un âge de la Lune assez vieille, 4,5 milliards d'années. D'autres mesures 4,35 milliards d'années, oui. Donc 150 millions d'années plus tard. Alors, tous des personnes très sérieuses qui ont fait ces mesures. Donc, pourquoi ce paradoxe? Et là, en réfléchissant, on s'est dit, mais peut-être simplement la Lune s'est formée tôt, mais à un moment donné, elle a refondu et donc a remis à zéro certains chronomètres, notamment ceux qui concernent la cristallisation des roches. Et donc, ça, c'est l'idée. De septembre 2023, après il y a eu un an de travail pour modéliser la chose, comprendre pourquoi la Lune devrait refondre tardivement. Ouais. Et donc on a étudié les mouvements des déplacements de la Lune par rapport à la Terre. La Lune s'éloigne de la Terre encore aujourd'hui, 4 cm par an, à l'époque près de sa formation beaucoup plus vite. Et en s'éloignant de la Terre, la Lune passe d'un système qui est fortement dominé par la gravité de la Terre et son aplatissement, donc la Lune tournée sur le plan équatorial terrestre, vers un système qui est plus dominé par le Soleil, et donc la Lune a envie d'aller sur les plans de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Il y a 23 degrés d'inclinaison entre les deux, et donc dans ces basculements des plans de référence, l'orbite de la Lune devient elliptique, ça veut dire que la Lune n'a plus une distance constante par rapport à la Terre sur sa période orbitale, n'a plus une vitesse constante non plus. Ceci engendre des forces de marée énormes qui dissipent beaucoup d'énergie à l'intérieur la Lune et donc dégage beaucoup de chaleur. L'analogie, le satellite Io de Jupiter, qui est aussi un tout petit peu excentrique, Et il y a tellement de chaleur développée à l'intérieur de ce satellite que ce satellite est en éruption permanente.
Ouais.
C'est le seul objet du système solaire qui soit en éruption permanente.
Mais quand vous parlez de refonte, ça veut dire quoi concrètement en termes de volume de la Lune alors ?
Ça veut dire qu'une grosse partie du volume de la Lune entière à tout moment a été fondue. Et après, il y a des choses solides qui font à leur tour,
ouais, ouais.
Que les choses fondues récristallisent. Et donc, c'est assez pour effacer tous les anciennes roches.
Mmh.
Et donc, aujourd'hui, on mesure l'âge de cristallisation du roche lunaire. En fait, ce qu'on mesure est l'âge de la dernière cristallisation.
Ouais.
Donc, ce qui reflète cet épisode de refonte il y a 4,350 milliards d'années.
Donc, ces roches, vous les avez étudiées. À partir de quoi, d'ailleurs ? Comment on les date ? D'où viennent les échantillons que vous utilisez pour ça ?
On utilise des échantillons Apollo, essentiellement. Hein. Il y a 380 kilos des matériaux lunaires ramenés par les astronautes. Mais on a aussi beaucoup de météorites lunaires. Donc, on a des vrais échantillons lunaires.
Oui.
On sait identifier des météorites et dire « Ah, celle-là vient de la Lune ». Donc finalement, il y a beaucoup de matériaux lunaires.
Et tout confirme vos calculs, Alessandro Morbidelli,
oui,
sur l'âge de la Lune ?
On est parti de là, en fait.
Ouais.
On est parti du fait qu'on ne trouve pas des roches plus vieilles que 4,35. Oui. Alors, on fait quand même une prédiction, parce que toutes les roches ramenées par les astronautes viennent de la face de la Lune proche,
oui,
à la Terre.
Donc du même endroit.
Voilà, plus ou moins du même endroit. Hein. L'émission Apollo atterrissait là où c'était relativement facile. Maintenant, on commence à atterrir sur la face cachée de la Lune, ramener des échantillons de cette face cachée. Notre,
oui,
prédiction est que même la face cachée nous donnera le même âge, 4,35.
On espère.
On espère.
Et si ce n'est pas le cas ?
Il faut retourner travailler. Ce ne serait pas la première fois dans
c'est
la vie
ça.
Des scientifiques.
Mais tout est possible.
C'est un aller-retour continu entre modèles et données.
Exactement. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître l'âge de la Lune avec précision, Alessandro Morbidelli ?
Même parce que, comme on l'a dit, ça marque la fin de la création de la Terre. La Terre, après, n'accrète plus presque rien. Et donc, ça permet de caler la chronologie,
ouais,
du système solaire. On pense que la Terre est la planète la plus lente à s'être formée dans les systèmes solaires.
La science et les connaissances évoluent donc en permanence, hein, c'est ce que vous montrez encore avec cette dernière étude. Et comme on va l'entendre aussi avec cette archive qui date de 1970 et dans laquelle on entend la voix du géochimiste Claude Allègre, bien avant ses prises de position climato-sceptiques, et qui donnait ses informations au sujet du système solaire.
On sait que la formation du système solaire date environ de 7 milliards d'années. Par rapport à cette origine du système solaire, l'apparition des planètes date de 4,7 milliards d'années. Vous savez que les échantillons qui ont été ramenés par Apollo 11 ont montré que la Lune avait 4,7 milliards, à peu près le même âge que la Terre.
Voilà, je vois froncer les sourcils, mais c'est normal, Alessandro Morbidelli, on est en 1970, donc les connaissances ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein.
Oui, bien sûr, les connaissances évoluent. Donc aujourd'hui, on a une frise chronologique un peu différente. Donc on sait que les minéraux les plus anciens, les tout premiers minéraux qui ont condensé à partir des gaz très chauds précurseurs du Soleil, datent de 4,568 milliards d'années. La barre,
oui,
d'erreur est moins d'un million d'années aujourd'hui. Donc à partir de là, les choses commencent à accélérer. On a après la formation des petits corps, qu'on appelle les planétésimaux, un peu équivalent aux,
ouais,
astéroïdes. Voilà.
Le premier chiffre que vous donnez, c'est l'âge du système solaire. Vraiment, on peut considérer que c'est l'étincelle qui donne le départ au système solaire.
C'est,
ou pas,
l'âge des premiers grains solides. Donc, à partir de là, la formation planétaire peut commencer. Donc, pour,
ouais,
nous, c'est le temps zéro. C'est le temps de début.
Alessandro Morbidelli, vous êtes connu pour avoir formulé le modèle de Nice, scénario qui permet justement de décrire la formation et l'évolution du système solaire. C'est l'objet de notre discussion pour essayer de comprendre comment tout ça s'est passé, évidemment. À partir de quand notre système solaire a fait l'objet d'études justement dans l'histoire des sciences ? Est-ce que c'est récent ou pas ?
Ah non, évidemment, le système solaire a toujours intrigué les scientifiques. Et déjà, le fait que toutes les planètes tournent autour du Soleil dans le même sens, sur des orbites presque circulaires, coplanaires, a suscité l'intérêt, a intrigué les savants. Emmanuel Kant avait imaginé que, bon, pour tourner sur le même plan, probablement les planètes se sont formées au sein d'un disque.
Mmh. Puis il était philosophe. Quand
il était philosophe.
Il faisait l'astronomie aussi à ses heures perdues.
Oui, à l'époque, les savants s'intéressaient un peu tout, mais c'est vraiment Pierre-Simon de Laplace, un vrai scientifique, qui démontre pourquoi il doit y avoir un disque à la formation stellaire. Et il avait tout à fait raison, et aujourd'hui avec les observations, on observe que toutes les étoiles jeunes sont entourées d'un disque de gaz et de poussière.
Ça c'est une loi absolue.
Ça c'est une loi absolue, Et ces disques durent quelques millions d'années, tout au plus 10 millions d'années. Dans notre système solaire, par des mesures de paléomagnétisme, on sait que notre disque de gaz a disparu entre 4 et 5 millions d'années.
Ouais.
Et c'est au sein de ces disques qui se forment les planètes.
Donc c'est les pouponnières pour nos planètes un petit peu.
Les pouponnières aux planètes.
C'est ça. Alors comment vous y prenez pour essayer de comprendre les conditions initiales précisément et l'évolution de notre système solaire? En quoi ça consiste votre travail alors? Vous échafaudez des scénarios? Qu'est-ce que vous faites?
Oui, alors évidemment, on n'était pas là pour observer les systèmes solaires en formation. On connaît seulement les résultats finaux, donc les planètes, leurs orbites, les petits corps, leur distribution. On connaît, grâce aux météorites, beaucoup des choses concernant les différences de la matière qui compose les différents corps. On a des informations chronologiques, par exemple, ces 4,568 milliards d'années pour les premiers solides, le paléomagnétisme qui nous dit la durée du disque, etc. Et à partir de ça, il faut imaginer un scénario qui reproduit les données. Et ces scénarios, pour les démontrer, il faut le simuler. Normalement, en physique, on fait des expériences de laboratoire. Dans les systèmes solaires, c'est un peu gros.
Donc, simulation numérique.
Donc, on fait des simulations numériques qui, à mon avis, sont un véritable laboratoire virtuel.
Voilà. Ouais.
Et donc, il faut imaginer les conditions initiales, il faut évoluer, il faut simuler comment les systèmes évoluent et les comparer aux données.
Ouais.
Et évidemment, pour imaginer les conditions initiales, aujourd'hui, on peut s'inspirer à ce qu'on voit autour d'autres étoiles, donc par exemple les propriétés du disque, les durées des disques, etc. Mais évidemment, il faut toujours tenir compte que chaque étoile est un cas unique, un peu unique, et donc on ne va pas forcément réobserver l'équivalent à la formation du système solaire autour d'une autre étoile.
Ouais, et en particulier avec notre système solaire, on va le voir, qui est assez atypique. Vous dites qu'on ne peut pas simuler le système solaire du présent vers le passé.
Oui, parce que les systèmes évoluent selon les lois de la thermodynamique en faisant augmenter l'entropie. Et si on simule quelque chose à l'ordinateur, à cause des petites erreurs inévitables dans les calculs, ben l'entropie augmente. Or, si on était capable de faire une vraie simulation qui va vers le passé, on devrait voir l'entropie diminuer. Et ça, c'est impossible dans les simulations.
Alessandro Morbidelli, est-ce que votre modèle de Nice, finalement, c'est le scénario le plus solide aujourd'hui ou pas? Et est-ce que c'est le scénario qui met le plus de monde d'accord?
Ça dépend de ce qu'on veut décrire. Les modèles de Nice décrit la dernière phase évolutive du système solaire après la disparition du gaz, du disque protoplanétaire, et montre que les planètes géantes ont changé d'orbite, en passant par une phase d'instabilité. Et ceci explique la distribution orbitale des planètes et de tous les petits corps du système solaire et lointain. Ça, je dirais, aujourd'hui, fait presque l'unanimité. Mm-hmm. Bon, encore, bon, comme tous les modèles, on peut essayer de raffiner un peu, mais les grands schémas, les planètes ne sont pas nées là où elles sont, et elles ont changé radicalement leurs orbites, restent, et je pense, aujourd'hui, acceptées par tout le monde.
Donc ça, c'est un modèle que vous avez mis au point en 2005.
On a commencé.
Il évolue d'ailleurs toujours au fil du temps. Il y a un apport scientifique de la
communauté. Tout à fait. Ouais. Bon, déjà, il y a une refonte du modèle vers 2007-2012, mais même encore l'année passée, avec une étudiante en thèse chez nous à Nice, Philippine Griveau, on a réévalué toute la chaîne d'évolution des planètes dans l'hypothèse d'un disque à très faible viscosité, parce que les observations des disques autour des autres étoiles semblent montrer que la viscosité du gaz est très faible. Donc voilà, c'est des raffinements un peu techniques, mais qui continue, c'est la beauté de la science, donc améliorer les modèles sans cesse.
Alessandro Morbidelli, on a posé la méthode, on va maintenant aller sur l'histoire, justement sur le scénario du système solaire pour voir un peu comment tout s'est organisé jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes notre invité, vous répondrez également au message à ce sujet qui arrive sur franceinter.fr.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Ne m'appelez plus planète. C'est ce que pourrait dire Pluton. En effet, cet après-midi, les 2500 scientifiques présents à l'Assemblée Générale de l'Union Astronomique Internationale ont enlevé à Pluton son statut de planète. Pluton, la seule découverte américaine du système solaire, quitte donc la catégorie des belles et majestueuses planètes pour rejoindre, en troisième division, une nouvelle sous-catégorie, celle des planètes naines. À partir de ce soir, dans tous les manuels du monde, la microscopique Pluton va donc disparaître.
Et voilà ce qu'on apprenait aux infos en 2006, le 24 août, Alessandro Morbidelli, au sujet donc de Pluton, déclassé en troisième.
J'y étais.
Quel souvenir vous gardez de ça d'ailleurs? Parce que c'était assez étonnant de voir cette planète quitter au fond le club.
Oui, mais c'était tout à fait logique dans l'été 2006. À partir de 1992, les astronomes ont commencé à découvrir des corps qui orbitent le Soleil au-delà de Neptune. Ouais. Auparavant, on connaissait que Pluton, découvert en 1930. Donc Pluton a été un peu un objet unique jusqu'à 1992, mais après on commence à découvrir une pléthore de ces objets, donc ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper.
Alors justement, vous avez consacré en octobre dernier un cours entier au Collège de France à cette ceinture de Kuiper, dont fait partie Pluton alors, c'est
ça ? Tout à fait.
Ouais. Donc c'est quoi cette ceinture ? Comment il faut l'imaginer en fait ? C'est vraiment des petits corps qui orbitent ?
Oui, donc c'est une population de petits corps assez grande qui orbite autour du Soleil, au-delà de l'orbite de Neptune. On estime 100 000 les nombres d'objets plus grands que 100 km dans cette ceinture. Donc, c'est un peu comme une ceinture d'astéroïdes, mais beaucoup plus grande en termes des nombres. Et la nature des corps aussi différente. Ce sont des corps plutôt riches en glace, au lieu d'être rocheux comme nos astéroïdes. Pluton est un des plus gros, même pas le plus gros, parce que Eris est un tout petit peu plus gros. Ouais. Donc, il y a vraiment plus de raisons de considérer cet objet comme un objet extraordinaire. Et on veut limiter les non-planètes aux objets extraordinaires. Pluton est tout petit, il est plus petit que notre Lune. Ouais. Donc, au départ, quand Pluton fut découvert, on pensait qu'il avait 7 fois la masse de la Terre. Puis on a, avec des raffinements des mesures, réduit la masse à fur et à mesure jusqu'à arriver à sa masse très petite qu'on connaît précisément aujourd'hui. Mais c'est surtout le fait que cet objet n'est pas isolé. Voilà, ouais. Il y a beaucoup d'autres objets qui partagent son orbite, ont des orbites similaires et des tailles similaires. Donc c'est plus un objet qui sort du lot. On veut garder les non-planètes aux objets qui sortent du lot.
Donc dans cette ceinture de Kuiper, qui raconte le passé complexe de notre système solaire, justement, parce que par rapport à votre modèle de Nice, quel rôle a joué cette ceinture, Alessandro?
A joué un rôle capital, parce qu'avant la découverte de cette ceinture, on avait une image un peu statique du système solaire où les planètes se forment sur les orbites sur lesquelles elles sont. On n'avait aucune raison de penser que les planètes avaient changé d'orbite. Mais avec la découverte de la ceinture de Kuiper, on s'aperçoit que cette population d'objets, même si elle est au-delà des planètes, donc en principe n'aurait pas dû être perturbée trop par la formation planétaire, en fait a été fortement chahutée. Parce qu'on s'attendait de trouver toujours des objets sur l'orbite circulaire et coplanaire, et en fait on trouve des objets aussi qui ont des très grandes inclinaisons orbitales, jusqu'à 40 degrés par rapport au plan du système solaire, des orbites très elliptiques qui amènent les objets très lointains, des objets empilés à des endroits spécifiques où leur période orbitale est un rapport de nombre entier avec la période orbitale de Neptune. Donc il est clair que cette ceinture a été sculptée par les événements. Ouais. Et donc, du coup, l'hypothèse que les planètes se sont formées là où elles sont a dû être tombée et abandonnée parce qu'elles ne pouvaient pas expliquer cette structuration complexe de la ceinture de Kuiper. Donc au départ, on avait imaginé que les planètes simplement ont migré, se sont écartées les unes aux autres à la suite de la disparition du gaz autour du Soleil.
Donc c'est des résidus de planètes, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, cette ceinture, ou pas ?
Non, c'est des précurseurs de planètes qui ne se sont jamais agrégés en planètes. Oui, un peu comme les astéroïdes, ce n'est pas des débris de planètes.
D'accord.
Ce n'est pas des planètes qui ont explosé et ont formé un tas d'objets.
C'était avant la formation.
Voilà, pour former les planètes, d'abord en forme des planétésimaux, donc des objets de l'ordre de 100 km, qui continuent à grandir. Et puis, si les choses vont bien, il y a quelqu'un qui sort du lot et devient une planète. Ouais. Et évidemment, là, on était suffisamment loin. Les temps orbitaux sont très longs. Il faut beaucoup de temps et les disques ont une durée de vie limitée. Donc, ces objets-là ne se sont jamais agrégés pour former une planète. Ouais. Mais pourtant, on subit les perturbations des planètes géantes du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, au moment où celles-ci ont eu leur moment de folie, donc cette phase d'instabilité dynamique qui a induit ces planètes à changer radicalement d'orbite, et c'est donc une secousse sismique à l'échelle du système solaire qui a modifié les orbites de tous les corps de la ceinture de Kuiper.
Donc pour vous, c'est une archive très importante
Absolument.
Dans ces scénarios que vous élaborez pour comprendre l'histoire du système solaire.
C'était un indice formidable sans lequel on n'aurait même pas eu l'idée de faire quelque chose comme le modèle de Nice, parce qu'il n'y avait pas de raison, et en science, on cherche toujours l'hypothèse minimale, c'est ce qu'on appelle le critère du rasoir d'Occam, donc on ne va pas chercher des choses compliquées pour expliquer des choses simples. Donc il faut trouver des données compliquées pour pour évoquer un scénario compliqué. Sinon, il n'y a pas de raison.
Des ceintures, il y en a d'autres ou pas dans le système solaire?
Ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter.
Ouais. Et donc, le rôle est le même ou pas que Kuiper?
Les rôles sont les mêmes, mais donc c'est là aussi des précurseurs des planètes qui ne se sont pas agrégés en planètes parce que Jupiter a grandi et les perturbations de Jupiter ont empêché cette structure à continuer, cette population à continuer à s'agréger. La ceinture d'astéroïdes est aussi assez chahuté, on a des inclinaisons jusqu'à 20-30 degrés. Ouais. Mais c'est normal parce qu'elle est prise en sandwich entre deux planètes, ouais, dont la majeure. Alors que la ceinture de Kuiper est bien au-delà de Neptune. Neptune a 30 unités astronomiques, 30 fois la distance Terre-Soleil. La ceinture de Kuiper est entre 40 et 50 unités astronomiques, donc presque le double.
C'est ça.
Donc c'est pour ça qu'on s'attendait de trouver un disque vierge qui nous montre vraiment l'état d'un disque original.
Pas du tout.
Et pas du tout.
Ouais. Alors, l'histoire, le scénario, donc, si il fallait qu'on le résume, comment notre système actuel, qu'on connaît bien, la position des planètes, leur orbite, etc., comment ça s'est passé exactement, Alessandro Morbidelli? Alors, vous avez parlé de ce nuage de gaz, de poussière.
Voilà, donc il y a un disque de gaz et des poussières dans lequel les poussières commencent à s'agréger pour former des petits corps, et les petits corps collisionnent entre eux pour former des plus gros corps, et quand un corps devient plus grand, il a plus de gravité, peut attirer les voisins à lui, donc il grandit davantage, comme en économie, quand on est riche, on a du capital, on peut investir,
on devient de plus en plus riche.
Voilà.
C'est ça.
Tout le monde connaît bien ce processus, ça s'appelle le processus la croissance exponentielle. Ça existe en planétologie aussi. Et là, on forme deux types de planètes. Donc, avant que les gaz disparaissent, donc avant 5 millions d'années, il y a des corps qui deviennent suffisamment grands, donc plusieurs masses terrestres, capables de capturer par gravité du gaz du disque. Et deviennent donc les planètes géantes qui ont des énormes enveloppes, des énormes atmosphères gazeuses, d'hydrogène et d'hélium, les mêmes gaz que le Soleil.
Donc ce sont les premières à s'être formées.
Voilà, les planètes géantes sont les premières planètes à s'être formées. Là, on est sûr, parce qu'elles doivent capturer les gaz, et on sait que les gaz sont partis en 5 millions d'années.
Ouais.
À l'intérieur, les planètes telluriques ont du mal. Ont du mal parce qu'il n'y a pas de glace. Et la glace est un collant très formidable. Et donc, il faut faire coller des roches. Hein. Si vous êtes à montagne, vous faites des boules de neige, vous jouez aux boules de neige, vous allez à la plage, vous essayez de faire des boules de sable si vous êtes capable. La seule manière est de mouiller les sables. Donc, c'est le même problème qu'avaient les planètes telluriques. Donc, les corps grossissaient plus doucement. Mars s'est formée aussi en 4-5 millions d'années, mais elle est toute petite, un dixième de la masse de la Terre. Alors que les planètes majeures, la Terre et Vénus, ont continué à accréter des objets après la disparition des gaz sur une échelle de temps de plusieurs dizaines de millions d'années, et pour la Terre, 60 millions d'années, ouais, l'âge du choc lunaire qu'on a évoqué tout à l'heure. Cependant, la formation planétaire n'est pas tout. Une fois que les planètes se forment, elles n'ont pas forcément des orbites stables. Elles se forment en présence d'un gaz qui crée une dissipation, c'est comme un ressort qui tient les planètes sur place, sur leurs orbites initiales, mais une fois que les gaz sont partis, les orbites des planètes sont plus vulnérables. Donc les planètes, à un moment donné, peuvent devenir instables. Qu'est-ce qui se passe quand les planètes deviennent instables? Elles se rencontrent entre elles, elles peuvent collisionner, elles peuvent s'expulser, donc les orbites peuvent s'écarter, donc les systèmes se transforment, et en général, ils se simplifient.
Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans notre système.
Ça, c'est ce qui s'est passé dans notre système solaire externe. Tout à fait, une partie de billard entre les planètes géantes. On pense qu'à l'origine, les planètes géantes, il y en avait 5. Une est partie, les 4 restantes se sont écartées.
Quand vous dites qu'elle est partie, elle est sortie du système solaire.
Elle a été éjectée du système solaire. Ouais. D'ailleurs, on sait qu'il y a pas mal de planètes flottantes dans la galaxie, donc des planètes qui ont été expulsées de leur système planétaire. Et donc, elles se baladent dans la galaxie, ne sont plus tournées autour d'une étoile.
Mm-hmm.
Et les vestiges de ces mouvements chaotiques des planètes géantes sont les orbites des planètes géantes qui sont légèrement excentriques, légèrement inclinées, mais surtout justement l'éparpillement orbital dans la ceinture de Kuiper, mais aussi la capture des Troyens, donc les objets qui partagent l'orbite de Jupiter ou l'orbite de Neptune, la capture d'un cortège de satellites qui tournent autour de toutes les planètes géantes à très grande distance, sur des orbites aussi elliptiques, inclinées, certains rétrogrades. Donc toutes ces bizarreries du système solaire s'expliquent avec un seul scénario, donc ce passage par une instabilité dynamique des planètes géantes.
Et à quel moment ça devient stable alors précisément?
Les systèmes deviennent stables une fois qu'ils se simplifient. Donc, on élimine une planète, on élimine beaucoup de petits corps, les planètes s'écartent entre elles, elles trouvent à la fin leur havre de paix, leur havre de stabilité.
Et ça s'est passé quand dans cette histoire
On voudrait bien savoir. Donc, ça s'est passé dans les premiers 100 millions d'années de l'histoire du système solaire, mais exactement quand, on ne sait pas trop. Selon certains scientifiques, c'est passé très vite, en quelques millions d'années après la disparition du gaz. Selon d'autres, plutôt plus tard, vers les 60 millions d'années, c'est à peu près contemporain à mon avis, mais c'est un avis là, c'est pas, on peut pas l'affirmer encore avec certitude scientifique, c'est à peu près au même moment la formation de la Lune.
Alessandro Morbidelli, on va voir ce que les exoplanètes nous ont apporté aussi dans toute cette histoire de notre système solaire, et puis quel sera le futur, on peut peut-être aussi un peu l'imaginer avec vous, et répondre aux questions qui arrivent sur franceinter.fr.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Il existe une théorie de l'origine de notre planète. Elle est séduisante. Quelque part, dans une région de la Voie lactée, un petit nuage de gaz cosmique se mit un jour à se contracter. Une étincelle jaillit. Une étoile était née. C'était notre Soleil. Notre Soleil, ou plutôt nos soleils, car le Soleil, à l'époque, était une étoile double comme il en existe des millions dans le ciel. Un jour, l'un des astres jumeaux explosa, échappa à l'attraction de l'autre et disparut dans l'espace, ne laissant comme seule trace de son existence qu'un petit nuage de vapeur qui continua à graviter autour du Soleil et devint peu à peu le système planétaire.
Voilà, c'est une belle histoire qu'on nous raconte en 1957, Alessandro Morbidelli, sur la RTF. Est-ce que là aussi, il y a beaucoup de choses à corriger ?
Oui, parce que là, en fait, là, donc cette idée de l'explosion d'une étoile ou d'arracher de la matière au Soleil, c'était pour expliquer ces disques qui entourent l'étoile, elle entoure le Soleil, qui est la pépinière pouponnière de nos planètes. Ouais. Mais finalement, la formation d'un disque est la conséquence de la formation de l'étoile. L'étoile peut se former seule. Pas tous les gaz tombera sur l'étoile. Une partie du gaz doit forcément tomber autour d'un disque. Mais curieusement, Pierre-Simon Delaplace l'avait déjà dit à la fin du XVIIIe siècle.
Est-ce que la découverte de la première exoplanète en 95 a complètement bousculé vos recherches dans ce domaine ou pas ?
Oui, certainement, parce que ça, c'était encore une étape fondamentale dans la démarche intellectuelle. Jusqu'à ce moment-là, on pensait que l'étoile de la nature étant universelle, tout système planétaire devait sembler au nôtre. Et donc, quand on essayait de développer des modèles du système solaire, tous ces modèles avaient une finalité: montrer qu'on pouvait faire rien d'autre qu'aboutir au système solaire. Le système solaire devait être le résultat déterministe de tout modèle. Avec la découverte des planètes extrasolaires...
On s'est jamais dit à ce moment-là qu'il pouvait y avoir d'autres possibilités ou pas ?
Non, c'était pas contemplé. Pratiquement, c'était pas contemplé. Donc, on pensait qu'il y avait des planètes partout, mais que, voilà, les systèmes
ressemblent aux nôtres.
Et d'ailleurs, vu que notre système est difficile à observer autour des autres étoiles, bon, certains disaient, mais laissez tomber, c'est pas la peine, vous trouverez rien. Et c'est grâce à l'acharnement de certains, notamment Michel Mayor, qu'on a découvert, en fait, des planètes extrasolaires, parce que il existe autour d'autres étoiles des planètes qui n'existaient pas dans notre système solaire. Donc, notamment, la première planète découverte, 51 Pégase B, c'est une planète de la masse de Jupiter à peu près, mais qui, au lieu d'être très loin de l'étoile centrale, Jupiter est 5 fois plus distant du Soleil que la Terre, se trouve à 1/10 de la distance de Mercure-Soleil.
Donc déjà, ça vient troubler tout le monde.
Voilà, complètement inattendu. Pendant quelques années, on a débattu si c'était véritablement une planète, ou des erreurs d'observation, du bruit stellaire, etc.
Ouais. Non, c'était bien.
C'était bien une planète. Après, on a découvert beaucoup d'autres. Aujourd'hui, on en connaît 6000, 7000. Effectivement, on voit qu'autour des autres étoiles, il y a des planètes qui n'ont pas d'analogue ici. Donc, il y a beaucoup de systèmes qui n'ont rien à voir avec notre système
solaire. Donc, ça rebat les cartes.
Ça rebat les cartes.
Ouais.
Donc, ça a permis de changer catégorie de modèle, donc aller vers des modèles qui peuvent donner origine au système solaire dans une certaine probabilité d'événement, mais pas à 100%. Et notamment, les modèles de Nice, c'est un peu ça. Vu qu'on passe à travers une phase de chaos, on ne peut pas avoir systématiquement le système solaire à la fin. Le modèle de Nice marche dans 5% des cas. Donc, 95% des cas, on obtient des systèmes planétaires qui sont assez différents d'une autre.
Donc, ça veut dire qu'il y a une grande diversité.
Il y a une grande diversité. Mais avant la découverte des planètes extrasolaires, on aurait rejeté les modèles de Nice en disant Non, mais écoutez, un modèle qui marche dans 5% des cas, faites un autre modèle. Quoi.
Donc vous remerciez Michel Mayer et Didier Queloz,
tous les jours,
prix Nobel, pour avoir découvert d'autres planètes ailleurs.
Absolument. Et aujourd'hui, on a compris, en regardant ces planètes, qu'une chose est la formation planétaire, mais aussi important est l'évolution des systèmes planétaires. Les systèmes planétaires évoluent, les orbites des planètes bougent, d'abord par interaction avec les disques de gaz, puis par interaction avec les planétésimaux, puis par interaction mutuelle. Et donc, ceci permet de transformer ces systèmes planétaires. Mmh. Et en passant par des phases d'instabilité, comme notre système solaire, on passe par des phases chaotiques, donc on a une très grande sensibilité aux conditions initiales, aux contingences, en fait. Donc, ouais, les rôles de la contingence deviennent importants pour façonner un système planétaire. Et donc, c'est pour ça qu'on voit des systèmes planétaires très différents entre eux.
Ouais, donc, ça veut dire qu'il y a très peu de chances qu'on trouve un système solaire qui ressemble au nôtre ?
Oui, les probabilités sont sans doute faibles. Donc, ouais. Alors, pour notre système solaire, nous, on n'est pas encore capable, avec les technologies actuelles, de découvrir les planètes, des planètes équivalentes aux nôtres autour d'une autre étoile, sauf Jupiter. Ouais. Donc, du point de vue observationnel, la question, quelle est la typicité de notre système solaire, doit se réduire, pour le moment, à quelle est la fraction des étoiles qui ont une planète comme Jupiter sur une orbite analogue à Jupiter. Et là, on trouve que seulement une étoile sur 1000 rassemble au Soleil à une planète comme Jupiter sur une orbite analogue à Jupiter. Donc notre système solaire, déjà caractérisé par les couples Soleil-Jupiter, n'est pas plus fréquent qu'autour d'une étoile sur 1000 de la galaxie. Ouais. Et après, les systèmes solaires sont encore plus compliqués, donc certainement encore moins. Cependant, il y a 100 milliards d'étoiles dans la galaxie. Donc voilà, c'est des petits nombres, parce que c'est des faibles probabilités. De là, on ne peut pas dire que les systèmes solaires soient uniques.
Bon, mais enfin quand même, il offre une belle originalité quand même, on peut l'admettre. Ah, allez, on passe aux questions. Beaucoup de nos auditeurs et auditrices, Alessandro Morbidelli, on vous a entendu dire tout à l'heure que la Lune s'éloignait de la Terre de 4 cm par an. Pourquoi, demande Frédéric, et quelles conséquences à long terme pour la Terre, demande Amélie.
Alors pourquoi ? C'est parce que la Terre tourne plus vite que la Lune tourne autour de la Terre. La Lune tourne autour de la Terre en 28 jours et la Terre tourne sur elle-même en un jour. Donc la Lune déforme un peu la Terre, mais vu que la Terre tourne plus vite, ces déformations induites par la Lune sur la Terre, qu'on appelle les marées, sont à l'avance par rapport à la position de la Lune. Donc on tire la Lune, parce que la Terre tourne plus vite, donc on tire la Lune, et donc on accélère la rotation de la Lune, la révolution de la Lune autour de la Terre, ce qui l'a fait éloigner.
Et donc, à long terme, qu'est-ce que
conséquence,
ça va donner?
Bon, les marées s'estompent tout doucement, mais et aussi un jour, quand la Lune sera très 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 distante, mais on parle là d'un milliard d'années, l'influence de la Lune sur la Terre devient moindre et l'axe des rotations de la Terre pourrait changer d'obliquité.
D'accord. De toute façon, le Soleil aura tout grillé d'ici
là.
Non,
oui, oui, voilà. Donc principe, ça, c'est des raisonnements sur un Soleil hypothétique éternel.
C'est ça. Gilles demande, quelle est l'origine de la ceinture d'astéroïdes et non pas de la ceinture de Kuiper?
Mais là aussi, des planétésimaux. Donc au départ, il devait y avoir des planétésimaux un peu partout. C'est l'étape intermédiaire entre les gaz et poussière et les planètes. Mais à certains endroits, les petits corps collisionnent entre eux pour former des planètes. À d'autres endroits, parce qu'il y a des planètes déjà formées pas trop distant, les perturbations de ces planètes empêchent les objets de s'agréger. Parce que quand deux objets collisionnent entre eux, soit ils s'agrègent par gravité, soit ils se cassent. Et ça dépend des vitesses des collisions. Donc si on est dans une région peu perturbée, les vitesses des collisions sont lentes, donc quand deux planétésimaux se touchent, ils collent. Mm-hmm. Mais si un grand Jupiter à côté, les vitesses des collisions deviennent plus grandes, donc quand deux autres objets se touchent, ils rebondissent, ou ils se cassent, mais ils ne s'agrègent pas. Et donc on n'a pas formation planétaire dans la région entre Mars et Jupiter.
François demande, qu'en est-il de la 9e ou 10e planète, s'il vous plaît? J'étais sûr qu'on allait avoir cette question.
Donc 9e planète, donc on connaît donc 8 planètes ayant déclassé Pluton, mais des scientifiques propose qu'il existe une 9e planète, une vraie planète, quelquefois la masse de la Terre, très loin dans le système solaire, une orbite qui est à peu près 1000 fois la distance Terre-Soleil. Et pourquoi? Parce que parmi les objets de la ceinture de Kuiper qu'on connaît, qu'on observe, ceux qui vont les plus loin, sur les trajectoires les plus elliptiques, on s'aperçoit que ces orbites ne sont pas uniformément distribuées dans les ciels, mais ils tendent à être alignées entre elles. Alors, si c'est vrai, si c'est pas en effet des statistiques de petits nombres ou des biais observationnels, il faut quelque chose pour maintenir ces objets alignés. Donc, un objet d'une masse considérable. Ouais. Et donc, une planète de 5 masses terrestres pourrait faire l'affaire.
Ouais. Donc, une dixième aussi ou pas?
Non, il n'y a pas de raison de dixième planète. Encore une fois, en science, on travaille toujours avec l'hypothèse minimale. Et s'il y a effectivement cet alignement orbital, une neuvième planète est nécessaire, une dixième planète, elle n'est pas nécessaire, selon les connaissances d'aujourd'hui.
Et vous pensez que c'est possible qu'on ne soit pas tombé dessus encore?
Oui, parce qu'une planète de 5 masses terrestres à 1000 unités astronomiques est très 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 difficile à détecter. Elle se déplace très lentement, elle est très très faible, elle pourrait être même sur la Voie lactée, et donc très difficile à détecter. Il y a un nouvel observatoire, le Vera Rubin, et donc lui il va rentrer en opération cette année, et balaye tout le ciel.
Il pourrait mettre le doigt sur la neuvième planète,
peut-être pas, mais certainement, il va clarifier vraiment les statuts de tous ces objets sur l'orbite très elliptique et pourra nous dire effectivement, il y a un alignement orbital ou non, c'était juste des bio-observations.
Dernière question, très vite, Alessandro Morbidelli, comment, demande Patrice, explique-t-on que Vénus est une rotation contraire aux autres planètes?
Les planètes telluriques se forment un peu par collision des protoplanètes, collisions géantes, comme celle qu'a formée la Lune. À chaque collision, la rotation de la planète est resetée, remise à zéro. Donc, il se peut très bien qu'une planète commence à tourner à l'envers, et après, c'est les forces des marées qui amènent l'axe de rotation de Vénus à moins 90 degrés.
Merci beaucoup de votre venue aujourd'hui dans la Terre au Carré. Je renvoie sur vos cours au Collège de France qui sont filmés en vidéo, donc disponibles sur le site du Collège de France avant vos cours à l'automne prochain. Et merci à Anna Massardier qui a préparé aujourd'hui ce dossier. Merci Alessandro Morbidelli.
Merci à vous. Merci à vous.